Des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie au micro de Canal M et une nouvelle édition de l'émission Des livres plein les oreilles, juste pour vous faire savoir ce qui est disponible via le SQLA ou encore l'INCA en livre audio adapté. Alors aujourd'hui à l'émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Gérald Cousineau. J'aurai aussi le plaisir en seconde partie de m'entretenir avec Gérard Saint-Denis. Et notre invitée du jour, elle est déjà en studio, c'est Bia. Bonjour Bia.
Bonjour, je ne m'appelle pas Gérard moi.
Non, oui, t'as vu.
Il en faudrait une troisième.
Non, c'est Bia. Alors, je vous le disais, on commence toujours cette émission. Bia, d'ailleurs, je vous en informe, on commence toujours avec une personne non-voyante ou partiellement voyante et qui utilise ces livres audio dont nous parlons à cette émission, des livres plein les oreilles. Et nous avons l'habitude, une fois par mois, de nous entretenir avec Gérald Cousineau, qui doit être au bout du fil et que je vais accueillir comme il le faut. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde, bonjour Bia.
Ah, oh zut, son micro n'était pas ouvert, elle vous a répondu.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va Gérald?
Oh, ça va pas très... Oui, mais pas très mal. Je vais dire ça va mal, mais non, ça va très bien. Ça va
ah
très
bon bien. Ah non, mais ne faut pas me faire des frayeurs comme ça.
Ah, je t'ai fait peur. Hein.
Ah oui, non, absolument. Tu m'avoues, fais peur. Gérald, ce livre dont vous allez nous parler, j'ai hâte que vous nous le présentiez, ne serait-ce que parce que je ne sais pas prononcer le nom de son auteur, je dois l'avouer bien humblement.
Je vais le prononcer à ma façon, il s'agit de John Maxwell Coetzee. C'est peut-être pas la bonne façon, c'est de l'Afrikaner.
Ah, c'est ça.
Alors, ce monsieur est né en 1940, hein, c'est pas un jeune homme, là. Il est né en 1940 au Cap, en Afrique du Sud, prix Nobel, en 2003 quand même. D'ailleurs, parlant d'Afrique du Sud, Coetzee ne se définissait pas comme un auteur sud-africain. Hein. Non, il parlait de lui comme d'un écrivain occidental vivant en Afrique du Sud.
Ah, OK.
Alors, je parle de Disgrâce,
oui.
Roman paru en 99 et qui a gagné le prix Booker, le Booker Prize.
Ah oui.
Et il est disponible au SQLA en format CD seulement, je le souligne.
D'accord.
Et c'est fort bien lu.
OK.
Alors, Disgrâce, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle David Lurie. Il est professeur de poésie et de communication. Poésie, c'est important parce que le livre est parsemé de références à Lord Byron.
Ah oui.
Sur lequel, d'ailleurs, Lurie prépare un ouvrage. Donc, ce monsieur a 52 ans, il est deux fois divorcé et... Il a une aventure sentimentale avec l'une de ses étudiantes, Mélanie Isaacs. Elle est très jeune. L'affaire se sait et ça cause un petit scandale. Mmh. Alors, il est accusé de harcèlement sexuel. Il va passer devant un comité de discipline. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, avant même d'avoir le jugement, il abandonne tout et il se sauve littéralement chez sa fille, Lucie, qui a une exploitation agricole dans la campagne. Elle partage cette exploitation avec un associé noir qui s'appelle Petrus. Mm-hmm. Alors là, notre professeur de littérature et de communication va se mettre à soigner des chiens que sa fille accueille, va se mettre à aller au marché pour vendre les produits de la ferme. Et là, il va rencontrer une amie de Lucie qui, elle, recueille les chiens blessés et, en fait, les animaux blessés. Et de temps en temps, bien sûr, quand personne n'en veut, elle les euthanasie. Alors, il va se mettre à... En fait, il fait du bénévolat, finalement.
Oui.
Là, il arrive le drame horrible qui, heureusement, occupe quelques pages seulement du roman, mais ça va, bien sûr, déteindre sur tout le reste du récit. Alors, ils sont attaqués à la ferme par trois jeunes hommes. À aucun moment, on ne dit qu'ils sont noirs, mais on comprend très vite qu'ils sont noirs. J'ai pas dit, mais ça se passe dans la société post-apartheid, donc où les tensions sont très vives entre blancs et noirs. Mmh. Donc, ils sont attaqués. Malheureusement, Lucie sera violée par les trois hommes. Le monsieur a une partie du visage brûlée par ces mêmes hommes. Les chiens qui sont dans des... enfin, des, sont là à la ferme, sont tous
dans
abattus,
des enclos,
tous
oui,
abattus
sont
par
tous
l'un
abattus.
Des trois agresseurs. En fait. Donc, c'est une scène particulièrement horrible. Mm-hmm. Après ça, les relations vont être beaucoup plus froides, beaucoup plus tendues entre le père et la fille.
On comprend pourquoi, hein, parce que, en plus, ôtez-moi d'un doute, mon cher
oui.
Gérald, mais il n'en a pas mis qu'une seule dans son lit quand il était professeur. Je pense qu'il avait la fâcheuse habitude, en fait.
Oui, effectivement, hein? c'est pas étonnant qu'il l'ait divorcé
c'est
deux
ça.
Fois. D'ailleurs, dans le roman, il rencontre des prostituées.
Ouais.
Et quand il voit la jeune Mélanie, là, il craque littéralement.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, vous avez un extrait, je pense, qui parle justement
oui,
de cet
mais
amour,
c'est ça,
bah, cette faculté.
Oui, exactement, qu'il a. C'est un très, très court extrait où on nous dit « Il est surpris de voir qu'il lui suffit d'une heure et demie par semaine en compagnie d'une
oui.
femme pour être heureux. » Lui qui croyait qu'il lui fallait une épouse, un foyer, le mariage, eh bien ses besoins s'avèrent assez modestes, tout compte fait, modestes, éphémères, comme les besoins d'un papillon. Alors le papillon, eh bien il volette voilà, de jeune
oui.
fille en jeune fille, jusqu'à ce qu'il y ait cette Mélanie finalement qui
sauf
dit...
qu'à 52 ans, il mange
voilà.
tout d'un coup, il
oui.
frappe un mur, comme on dit. D'ailleurs, lui-même va dire, après un certain âge, on n'a tout simplement plus de charme, il faut s'y faire. Il ne reste qu'à serrer les dents, et vivre le reste qu'il reste à vivre,
ouais.
faire son temps. Mais c'est curieux, ça, faire son temps. Lui qui voltait, comme on dit, comme un
ouais,
papillon,
ouais,
ben
ouais.
là, il a le langage d'un prisonnier. Mais voilà, il est comme emmuré dans une prison qu'il s'est bâtie lui-même. Et bon, l'Afrique du Sud, à ce moment-là, c'est pas le paradis. Hein. Il y a, comme je l'ai dit, des tensions très vives entre noirs et blancs. Il y a des horreurs. On a l'impression qu'il n'y a pas de justice, où le gouvernement est impuissant. Or, David Lurie lui-même se sent maintenant impuissant à agir sur le monde, sur les autres. Il ne comprend plus sa fille, en quelque sorte. C'est un roman qui dérange. Moi, je l'ai écouté deux ou trois fois, mais c'est remarquable. C'est un roman merveilleux, dur, c'est vrai, très dur. Mais je pense que ça vaut le détour, ne serait-ce que pour mieux connaître cette période très troublée de l'Afrique du Sud. Malheureusement, la situation ne va pas très bien encore en Afrique du Sud. On sait qu'il y a beaucoup de viols,
ça.
Entre autres. Mais et c'est très, très, très...
Et ce qui est intéressant, hein, je pense, Gérald, aussi, c'est la relation après entre la fille qui subit un viol et
oui.
ce père.
Oui.
Bon, il est violé pas les étudiantes, mais enfin, mettons que... Il leur forçait un peu la main quand même, hein. On s'entend. Alors,
oui, oui.
Et là, du coup, il y a cette relation trouble entre tout d'un coup ce père qui se retrouve face à sa fille et qui subit ça. Hein, il y a quelque chose qui se passe. Hein.
Et le père ne comprend encore rien quand sa fille lui dit qu'elle va garder, parce qu'elle est enceinte, et elle lui avoue qu'elle va garder l'enfant. Là, il tombe des nues. Là.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Là, il y a une coupure entre les deux, évidente. Là.
Oui. Je voudrais rappeler, parce que peut-être que ça va dire quelque chose à certains de nos auditeurs, mais ce livre-là a donné lieu à un film.
Oui, avec, entre autres, je n'ai pas vu le film, il est sorti en 2009, je crois, avec John Malkovich.
C'était Malkovich,
donc,
oui,
c'est
qui jouait
très
le...
Bien.
Oui, et moi, je me souviens que lorsque vous m'avez proposé « Disgrâce », je me suis dit, pourquoi je connais ce titre? Je me souvenais que je n'avais pas lu le livre, mais je
oui.
me souvenais. Je suis vite allé voir de quoi il s'agissait. J'ai dit, comment ça se fait? Je n'ai pas lu le bouquin. Et là, c'est comme ça que j'ai vu tout de suite qu'il y avait ce film. J'aurais
oui.
voulu vous diffuser la bande-annonce. Malheureusement, la bande-annonce n'est qu'en anglais.
Oui.
Bon, je suis partie du principe que peut-être il y en avait d'autres comme moi qui étaient un petit peu des handicapés de la langue de Shakespeare. Alors, je ne l'ai pas diffusé, finalement, mais j'ai cherché partout une version française, moi qui suis anti-version française, mais
oui.
je trouvais que, bon, à la radio, ça se serait mieux passé quand même. Mais effectivement, c'était John Malkovich qui jouait le rôle de ce professeur-là.
J'ajoute le titre de « Si les gens si les gens ont peur de ce roman, parce qu'effectivement, c'est un roman assez dur, ben, il y a d'autres livres de Coedy qu'on peut trouver en format sonore, en particulier En attendant les barbares, qui est magnifique
ah oui?
également, et une sorte de pastiche de Robinson Crusoe qui s'appelle Faux, F-O-E. Il y a également L'âge de fer. Alors, on est gâté quand même. On a quand même 4 ou 5 livres
ah,
de
Coedy
en format sonore, mais c'est un grand écrivain. Moi, j'avoue que je suis arrivé à lui un petit peu tard. Je regrette, mais là, je me reprends.
Eh bien, bravo Gérald, merci de nous avoir parlé de lui. Je rappelle le titre de ce livre, Disgrâce, et je voudrais épeler, s'il vous plaît,
oui.
le nom de Coedzee, c'est C-O-E-T-Z-E.
E, il y a deux E à la fin.
Ah, il y a deux E à la fin.
Oui,
Eh bien, écoutez, mon doigt a fourchu et là, il a oublié d'appuyer deux fois sur la même touche. Alors, Gérald, merci beaucoup. Exceptionnellement, et pour notre plus grand plaisir, on va vous retrouver la semaine prochaine.
D'accord, au plaisir.
Alors, on a déjà bien hâte. Merci beaucoup d'avoir participé une nouvelle fois et passez une très, très belle journée. Je précise que la semaine prochaine, ce sera un spécial SQLA. Justement, nous allons en apprendre un petit peu plus sur les façons.
Sur les arcanes.
Voilà, exactement. Oui. Exactement. Alors, et vous en serez. Merci beaucoup. Gérald, merci.
Au revoir.
Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. C'est beau, hein?
Ah, merci.
Vous aimez ça, Bia?
Oui, j'aime ça, j'avoue. J'avoue que je l'écoute, moi aussi, mon album.
Mais bravo, un album qui, je le dis tout de suite en partant, là, reçoit trois nominations à la disque. Vous êtes nommé,
oui,
pardon.
Oui, on doit dire nommé ou en nomination, c'est vrai. Pour comme meilleur album musique du monde, mais aussi prise de son et mixage et réalisation. Ah, je suis très, très contente parce que c'est un album que j'ai porté avec beaucoup de tendresse et d'énergie depuis 4 ans jusqu'à ce qu'il sorte. Et j'ai travaillé avec des gens formidables et je trouve que c'est une belle reconnaissance tout ça.
Bia, justement, Bia la musicienne, Bia l'interprète que l'on connaît bien, Bia la femme qui chante en je ne sais plus combien de langues, 5 langues. Derrière l'interprète, derrière la chanteuse, bon, on va pas se raconter d'histoire. Moi, je vous connais un petit peu. J'avais déjà fait plusieurs entrevues avec vous, même dans la vie, on a eu l'occasion un petit peu de se côtoyer. Et moi, je sais un petit peu quelle est l'histoire qui est la vôtre, une vie qui est pleine de retours, de départs, de séparations, de tampons sur un passeport, de valises faites et défaites, de langues justement, de bancs d'école dans des pays différents, de langues apprises dans ces pays-là. Et pourtant, votre livre n'est pas une autobiographie complètement, c'est un récit, c'est le récit de Marina, ça s'appelle « Les révolutions de Marina ». Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, aussi que musicienne-interprète, mais c'est l'auteur que j'ai invité aujourd'hui. Les révolutions de Marina. Et pourquoi pas les révolutions de Bia?
Je voulais prendre une distance quand même, parce que c'est... En fait, la naissance de ce livre, pour ne pas dire récit ou roman, ou le catégoriser, parce que j'ai un petit peu du mal, la naissance de ce livre, c'était le désir ou la pulsion de raconter une histoire qui était plus... qui partait un peu de l'histoire de mes parents, en fait, qui, en tant que Brésilien, jeune, étudiant, à l'époque où un gouvernement militaire a évincé la démocratie au Brésil dans les années 60, c'est des gens qui se sont inscrits donc, dans une révolte par rapport à ça et dans une militance aussi. Mm-hmm. C'est des gens qui se sont engagés dans des partis qui sont devenus clandestins, qui ont eu un combat politique, intellectuel, etc., qui, au fil des années, avec le durcissement du régime, s'est transformé dans un travail clandestin, appelé subversif par le pouvoir. Donc, beaucoup de gens se sont retrouvés en prison, bannis, exilés, etc. Certains sont morts, d'autres ont survécu. Et moi, mon enfance ensuite a été marquée parce que mes parents, toute ma petite enfance, étaient des gens qui étaient en exil. Donc, j'ai vécu en exil pendant 10 ans. J'ai vécu dans plein de pays. Mais ce n'est pas mon histoire de Bia, la chanteuse, que j'avais envie de raconter. C'était l'histoire de cet enfant qui regardait tout ça, qui en avait une compréhension partielle, mais quand même une compréhension certaine, parce que mes parents étaient des gens qui expliquaient beaucoup les choses de façon à ce que je puisse comprendre.
Oui.
Mais dont la compréhension était quand même voilée par son âge et les secrets qu'il fallait absolument garder. Donc, beaucoup d'explications, je les ai eues que plus tard. Mais j'avais envie de raconter, je trouvais passionnante l'histoire de ces gens-là, mais d'un point de vue d'enfant, c'est-à-dire un enfant qui fait des raccourcis, qui comprend les choses autrement et qui forcément interprète ses parents... petit à petit, sans connaître tous les dessous de ce qui leur arrive.
Et pas seulement ses parents, mais les générations d'avant.
Oui.
Et dans ces générations-là d'avant, il y a un colonel.
Oui.
Il y a une guérisseuse. Il y a toute une ribambelle de personnages comme ça. Il y a une grand-mère gâteau.
Oui.
Comme on les appelait chez nous, je sais pas comment vous l'appelez. Ça, cette femme-là, je ne sais pas si elle fait partie de votre vie ou de celle de Marina, mais quel personnage merveilleux. On a tellement envie de se faire gâter par cette femme-là.
Oui, absolument, c'est vrai. Et elle s'appelle, dans la vraie vie, elle s'appelle Marina, d'ailleurs.
Ah,
c'est pourquoi j'ai donné le prénom à la petite fille de Marina.
Hein? La rencontre entre votre papa et votre maman, j'ai pris, voyez-vous, plein de notes et souvent, j'écrivais en bas de la page « à mettre dans un film »,« à mettre dans un film », »,« à mettre dans un film ». Mais c'est vrai, parce que si on mettait cette histoire-là, « Les révolutions de Marina », écrite par Bia Krieger, parce qu'il faut aussi donner votre nom pour que les gens retrouvent bien ce livre. Pourquoi je disais ça? Oui, c'est ça. Il y a entre autres la rencontre entre papa et maman, né peut-être de votre imagination, ou peut-être vrai, je ne sais pas, mais c'est absolument fabuleux, l'histoire de l'hôtesse de l'air qui l'aimait.
Ah non, ça c'est vrai. la plupart des anecdotes que j'ai racontées étaient vraies. Certaines anecdotes, j'ai fait des gros raccourcis parce que plusieurs anecdotes se sont retrouvées, transformées en une seule, mais l'histoire c'était vrai. C'est-à-dire que papa et maman, en fait, c'est bien l'anecdote à laquelle vous faites référence.
Ah, c'est vraiment la rencontre.
Ont dû quitter le Brésil d'une façon clandestine, avec des faux papiers, puis des identités bidons, comme beaucoup de gens. Et c'était un très, très grand danger. Et à un moment donné, ils voyageaient chacun de son côté, comme s'ils ne se connaissaient pas. Et puis, Ils avaient mis leurs meilleurs habits pour pouvoir passer inaperçus parce que le contrôle des frontières pouvait à tout moment. Ils étaient sur des listes noires chacun
bien
de
sûr.
Son côté. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est ça. C'est que tout en voyageant, ma mère avait un excédent de bagages et mon père avait des kilos en moins. Et puis, à l'époque, l'hôtesse de l'air a essayé, les a trouvés beaux, tous les deux, a essayé de les matcher et a demandé à mon père s'il voulait bien prendre à son compte les kilos d'excès de cette charmante demoiselle. Et il les a assis. Elle a fait un gros clin d'œil à ma mère en disant « Je vous assois avec lui », alors qu'il faisait tout. Pour ne pas être ensemble. Voilà.
Et elle, non, mais c'est très joli en plus, la façon dont vous l'écrivez, Bia. Bon, voilà qui est fait, annonça l'hôtesse, toute contente. Et en plus, comme je vois que vous êtes célibataire, et là tu sens les gros coups d'œil, l'état civil était marqué sur les papiers d'identité. Je vous ai assise à côté du seigneur José Pedro, j'imagine qu'il l'est aussi. Et là, elle jubilait. Oui. Qui sait, avec un homme si beau, si gentil. Et vous concluez ce chapitre en disant, et c'est donc assise à côté de mon père que ma mère voyagea vers son nouveau pays. Je trouve ça tellement mignon.
Ah, ben merci.
Parlant de l'écriture, à un moment donné, vous dites dans le livre, parce que le français n'est pas votre langue première, évidemment pas, c'est le portugais.
Oui, absolument.
Et vous avez donc appris le français comme vous avez appris l'anglais, comme vous, à un moment donné, on a essayé de vous faire apprendre l'allemand, mais c'est vraiment...
Ça n'a pas trop marché.
Non, là, vous avez dit non, ça, c'est vraiment trop. Ah, ça aussi, d'ailleurs, c'est vraiment délicieux, ce petit passage-là. Et à un moment donné, vous dites que c'est vraiment en français que vous parvenez à vous exprimer le mieux. Comment vous expliquez ça?
J'ai un amour vraiment incommensurable pour la langue française. D'abord, c'est pas la première langue que j'ai apprise, c'est même pas la seconde, parce que la seconde, c'est l'espagnol. Donc, j'ai commencé à apprendre le français vers l'âge de 9 ans. Et je l'ai étudié et tout ça, mais ce n'est vraiment qu'en arrivant en France que j'ai commencé à parler le français couramment, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est très littéraire ou un peu emprunté. Donc, en arrivant en France, je voyais défiler les argots et les gens parlent à une vitesse et oui. Je ne comprenais rien. J'étais comme quelqu'un qui regarde un match de tennis, qui voit les balles passer d'un côté de l'autre. Je dis, mais de quoi ils parlent? Je comprends, oui. Laisse béton, des expressions comme ça. Je dis, mais béton. J'allais voir dans le dictionnaire, c'est quoi le béton? du coup, en arrivant en France, on m'a mis entre les mains des professeurs extraordinaires. On m'a dit, il faut que pour la diction, il faut que tu écoutes Brassens. Donc, je me suis faite l'intégrale de Brassens comme ça pour la subtilité, la douceur et tout ça. Il faut lire Prévert. Je lisais Prévert énormément.
Formidable.
Boris Vian, beaucoup. Puis, petit à petit, j'ai commencé à lire des choses plus calées comme Proust et tout. Et j'étais fascinée, en fait, par cette langue. Enfin, je suis fascinée par cette langue. Je la trouve magnifique. Et parce que je me suis installée dans la vie en tant que francophone. Je partage ma vie avec des francophones. C'est devenu, en termes de littérature, l'évidence pour moi quand j'ai commencé. Je ne me suis pas assise en disant, tiens, je vais écrire un roman. Hein. J'ai commencé à écrire quelque chose qui était une chronique. Et que je voulais qu'il fasse 10, 20 pages.
Oui.
Mais j'ai tiré là un filon. Et il est sorti en français. Du moment que la première phrase est sortie en français, c'était évident. J'aurais pas pu l'écrire en portugais et le traduire en français ensuite. Il fallait vraiment que ça soit écrit en français.
Et laissez-moi vous en lire un extrait de ce livre de Bia Krieger, Les Révolutions de Marina, parce que vous allez voir quand elle dit qu'elle possède la langue française, Bia, elle possède la langue française. L'usure, la fatigue, le désenchantement, l'humour, l'espoir, la force des convictions. C'étaient les pôles antagonistes d'une vie de couple ordinaire, magnifiée par un combat dont les enjeux dépassaient leur existence et leur pays même. Des queues de comètes de la guerre froide, des vagues résiduelles de l'éternel affrontement entre défenseurs de l'oligarchie et humanistes inébranlables déchaînant la mer à force d'acharnement. Voilà, c'est l'écriture de Bia. Mmh. Et Bia, donc, ce livre aujourd'hui est disponible en audio adapté. Et vous me disiez tout à l'heure, quand on a préparé un petit peu l'émission, que vous-même, par exemple, Proust, vous avez écouté ça en audio. Donc, vous aimez aussi qu'on vous raconte des
J'adore
histoires.
J'adore ça, je trouve. D'ailleurs, ça a été une surprise tellement magnifique d'apprendre, parce que c'est vous qui me l'avez appris, que mon livre s'était retrouvé lu, parce que je trouve ça incroyable. Même si on est voyant et qu'on peut avoir accès à la parole écrite, de fermer les yeux et de se laisser raconter une histoire, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai beaucoup écouté de livres lus quand je vivais justement en France. Proust, entre autres, parce qu'en France, ça se fait beaucoup, des acteurs qui lisent des livres. Et des fois, ça permet tout simplement d'être en train de lire tout en faisant autre chose, chose que j'aime beaucoup. On est en train d'écouter ça tout en tricotant. Une époque, parce que je vivais sur un bateau, il faut le dire, je vivais sur un bateau, sur un voilier.
En plus.
Je passais beaucoup de temps en mer. Donc des fois, on est en train de faire des manœuvres ou de faire du pain ou de faire des choses qu'on fait sur un bateau en pleine mer. Et en écoutant, tout en écoutant un roman qui nous est raconté, c'est par Fanny Ardant, par Catherine Deneuve, que sais-je. Et donc voilà, j'étais très, très sensible à ça. J'ai des amis aussi qui travaillent à lire des livres. Et je suis vraiment enchantée. J'ai presque un regret de se dire pourquoi on ne me l'a pas demandé à moi. Je l'aurais lu volontiers.
Oh.
Mais voilà.
Ben, là, comme j'imagine, un jour, vous en écrirez un autre.
Ah, ben, voilà.
Et maintenant, vous savez qu'on existe, alors c'est certain. Bia, il y a aussi évidemment la musique. La musique est plus qu'importante dans votre vie. On vous connaît à titre d'interprète. Vous nous amenez... les couleurs brésiliennes, des couleurs portugaises, espagnoles, depuis maintenant, quoi, c'est votre sixième album?
C'est mon sixième, oui.
C'est ça. Hein. Et dans la vie de Marina, là, dans les révolutions de Marina, la musique est aussi très présente. Je pense à Mercedes Sosa, qui est un choc terrible hein, quand elle découvre la musique. Hein,
La musique, étant donné, elle est comme... Vraiment, j'ai mis une trame sonore tout en faisant le livre.
C'est
à
ça.
Chaque chapitre, il y avait comme
une
chanson qui inspirait le chapitre. Finalement, j'ai pas mis les textes entiers des chansons. C'était trop compliqué au niveau des droits. Et puis, c'est pas tout le monde qui les aurait chantés dans sa tête. Donc, il y a des petits extraits, soit de poèmes, soit de chansons. Parce que c'est vrai que je m'explique beaucoup le monde à travers les chansons. Puis au Brésil, on est très... Aussi bien les gens hispaniques sont très férus de poésie et à la poésie lue, les soirées comme ça de veillée de poésie, c'est quelque chose qui se vit beaucoup dans la langue hispanique et les gens sont très attachés à leurs poètes. Nous, au Brésil, c'est nos chansonniers, c'est nos poètes qui chantent, donc Chico Buarque, Caetano Veloso, etc.,
c'est ça.
Qui mettent leurs poèmes en musique ou qui font des chansons qui sont poétiques, etc., et qui nous racontent, qui nous expliquent comment on perçoit le monde, finalement.
Exactement.
Qui mettent des mots sur nos sentiments les plus conflictuels, profonds, déchirants, joyeux. Et mon fils, qui a 10 ans, il rit de moi parce que je passe mon temps à prendre une phrase qui est dite autour de moi et puis je chante la chanson qui va avec. il rit beaucoup. Il dit, il n'y a pas de mot sur lequel tu ne connais pas de chanson. Donc, il me met au défi, il dit « pizza ». Et oui, j'en connais une avec pizza. Et voilà. Donc, pour moi, là, il y a toujours une chanson qui est une trame sonore de la vie.
Et là, il y a un CD, Navegar. Rappelez-moi, la disque, c'est à quelle date, ça?
Il y a l'autre gala qui donne des prix aux catégories moins... pop, c'est le 27 octobre.
C'est le 27 octobre. Bon, là, parce que, vous savez, nous préenregistrons l'émission, donc ça va passer le 21 octobre. Alors, ce ne sera pas encore fait, donc je peux vous dire un gros merde.
D'accord.
Au nom de tous les auditeurs qui est de Canal M. Vous remercier infiniment d'être venu à cette émission. Il ne reste plus qu'un petit 15 secondes pour rappeler que ce livre de Bia Krieger, K-R-I-E-G-E-R, s'appelle Les Révolutions de Marina. Et bonne chance pour Navegar, le disque à la disque.
Merci.
Au revoir, Bia. Et c'est toujours Clotilde Seil et ses invités. Vous écoutez Canal M et l'émission des livres plein les oreilles.
Des spaghettis,
des spaghettis,
une salade,
une douceur
et un café. Je me souviens de ce petit repas. Des spaghettis,
une salade, une douceur
et un café. C'était déjà le vrai bonheur pour moi.
À Saint-Germain,
c'est là que je l'ai rencontré.
Chez l'Italien,
c'est lui qui nous a présenté. Elle semblait hésiter.
Et moi très ému,
je lui ai proposé
Des spaghettis, une salade,
une petite salade,
une douceur,
évidemment.
Et un café.
Oui.
dit.
Ah oui.
Une salade. Une douceur.
Une petite douceur.
Et un café.
Ah, Nina était vraiment la plus jolie. Ah oui.
Des spaghettis.
Encore.
Une salade.
Oui.
Une douceur. Et un café.
C'était très bon, nous en avons repris.
Ah. Chez l'Italien,
l'orchestre ne jouait que pour nous.
À Saint-Germain,
nous avons fait beaucoup les fous.
Au petit matin,
ça joue contre ma joue.
Tous les musiciens
à chanter avec nous.
Un
spaghetti,
une salade,
une douceur,
une douceur, et un café,
oui.
Un spaghetti,
papa tchoudou,
une salade,
papa tchoudou,
une douceur,
pasta fagioli,
un café,
a ravioli, mamma pimilli,
une salade,
a chutuguli,
une douceur,
a pantaloni,
un café,
a pantaloni, palazzuzu,
una salade,
a lasagne,
una
tchoudou,
spaghetti, une salade, un Gérard Saint-Denis.
Bonjour.
Comment ça va, Gérard?
Ah, ça va très bien.
Connaissiez-vous ce Marcel Zanini qui nous chantait
spaghetti? J'ai déjà entendu ça une fois, mais j'essayais de j'écoutais attentivement.
Spaghetti à Saint-Germain-des-Prés, ça s'appelle.
Ah, bon, c'est bien. Saint-Germain-des-Prés, c'est tellement quand même historique et puis c'est tellement intéressant.
Oh.
Ça me rappelle Jacques Normand.
Oh, ben oui.
Ah, je l'ai aimé.
Ben oui. J'aime les nuits de Montréal. Montréal.
C'est ça. Il y avait. Et je l'ai vu. Moi, j'y suis né à Verdun. J'y suis né à côté de CKVL. Et on le voyait avec le fantôme au clavier. On allait le voir.
Ben
il était
oui.
là avec Billy Monroe.
Vous savez
des
quoi?
Des années 50,
Gérard.
Les gens qui nous écoutent, les gens plus âgés, là, des années 48-50,
ben,
55, quand CKVL a commencé, c'était le premier poste de radio qui avait, où il y avait une salle pour les auditeurs.
Ah oui, absolument.
De place.
Ah oui, oui, tout à fait.
M. Talleman qui était le propriétaire.
Ouais. Mais là, Gérard,
il faut
qu'on parle de bouquins.
On
et on va parler de bouquins.
Et de cuisine.
Voilà.
Pas trop, j'ai obligé de parler de ça, j'aime pas ça. Moi, j'ai fait ça pour vous faire plaisir.
Vous
savez que je m'intéresse pas du tout à l'alimentation
pas
ni
du
au
tout.
Jardinage.
Pas
à
du tout.
Ça, il est fini, mon jardin, c'est prêt.
Bon.
Il n'y a plus de problème, là. Les gens ont besoin de s'inquiéter, là. Ben,
bon.
Rendu à la fin d'octobre, il faut quand même passer à l'hiver prochain.
Bon. Et je n'aurais pas bouffé une seule de vos tomates.
C'est ça.
Pas une, pas un seul de vos...
je vais me reprendre l'an prochain.
Oui, oui, ben je sais, ça fait trois...
Je commence par un livre qu'on retrouve à l'Inca, qui est ce qu'Einstein aurait pu dire à sa cuisinière, à part de dire « Vous êtes gentil, joli, vous faites bien à manger.
»
Ben, il aurait donné des réponses sucrées à des questions salées, et c'est fait par un ami Walt. C'est un livre qui est fort intéressant. C'est un peu technique, mais c'est intéressant, puis c'est bien présenté. Ça, on joue avec ça, on a du plaisir.
Robert Walke. Walke, W-O-L-K-E. D'accord.
Et c'est à un cas.
D'accord.
On continue à un cas. J'arrête la malbouffe. Mais ça, c'est par Marion Kaplan. C'est santé puis médecine, nutrition. C'est, dans le fond, c'est un guide qui lui fournit des informations fort intéressantes.
D'accord, des conseils, quoi.
Des conseils, des bons conseils, pour qu'on peut lire ça, puis ça se lit très, très bien.
J'arrête la malbouffe.
La malbouffe.
C'est dommage.
L'autre, c'est en cours avec un cas, c'est de bon gras et mauvais gras, une question de santé.
Oui.
Et ça, c'est Louise Lambert-Lagacé, que vous connaissez bien, qui est une nutritionniste qui est fantastique. Cette personne-là, quand elle passe à la télévision, à la radio, elle a l'art d'être capable d'expliquer des choses complexes de façon facile.
Ah, ben dites donc, faudrait que je l'invite.
Elle est vraiment très bonne là-dedans et son bouquin est très bon. Vous allez avoir du plaisir à lire ça. Ça se lit très, 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 très bien.
Bon gras, mauvais gras, une question de santé.
C'est ça. Après ça, vous avez 400 idées reçu sur votre alimentation, mieux comprendre ce que nous sommes, dans le fond. Et ça, c'est fait par Mme Conan. C'est c'est-à-dire
Egrani. Attendez, je vais vous aider, Gérard.
Oui. C-O-N-A-N. C'est pourquoi qu'on mange du pain fait de... Pourquoi que le pain fait grossir? Pourquoi qu'il y a un yogourt, c'est fruité, ça rend, c'est bon, ça remplace les fruits, etc. Vous savez, c'est tout ce qu'on entend dire, tout
oui.
coup, là, ce qu'on disait souvent, les histoires de nos grands-mères, là,
oui.
bon, c'est ça, on l'a là-dedans. Et ça, on lit ça, on ne s'en aperçoit pas, on est rendu à la fin du livre.
OK.
Ça se passe très bien, donc c'est 400 idées reçues.
D'accord. Mieux comprendre ce que nous mangeons et 400 idées reçues sur votre alimentation.
Après ça, on tombe avec un guide, un collectif, un guide pratique sur l'alimentation.
Ouais.
Ça, ça se retrouve au SQLA.
D'accord.
Et c'est vraiment plus sérieux.
Ah.
Oui, c'est un peu plus sérieux. C'est un vrai guide et on le lit plus tranquillement.
D'accord.
OK. C'est pas comme un roman. Pas comme un roman de Madame Agatha Christie.
Ah oui, non, ben non.
Mais c'est très instructif.
D'accord.
C'est très pertinent.
D'accord. On change vraiment sa façon de manger quand on lit ce genre de choses? Bon.
Oui. Ah oui, on se pose des questions, en tout cas.
Oui.
Et souvent, comme des fois on prend quelques jours pour le lire, on est devant des repas, tout à coup, on dit, hey, il devrait peut-être pas faire ça.
Oui, non, mais ça, oui, bah oui.
Non, mais c'est pas moralisateur quand même.
Ah non.
Faire attention.
Ah ben merci.
Après
tant
ça,
mieux.
Vous avez le plaisir de bien manger pour une meilleure nutrition. Ça, c'est Mme Fremes, F-R-E-M-E-S,
oui.
R-U-D-S, et c'est toujours au SQLA. Et c'est une brochure qui passe brièvement en revue les besoins qu'on a, les besoins alimentaires
d'accord.
de notre vie. Okay. C'est intéressant. C'est
bon.
Très intéressant. Après ça, j'avais la santé par le plaisir de bien manger du SQLA. Et ça, c'est notre ami Richard Béliveau.
Oui.
Richard Béliveau, c'est un expert. C'est un vulgarisateur, c'est un bonhomme formidable qui a apporté une grande contribution au niveau de la recherche et au niveau de la vulgarisation. Je l'aime beaucoup. C'est un livre que vous allez bien apprécier.
Oui, puis qui nous fait...
La santé par le plaisir de bien manger.
Voilà, et qui nous fait comprendre que souvent, on se rend malade nous-mêmes à cause des aliments que nous ingurgitons, quoi.
Exactement.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Le roman des régimes, ça c'est un peu
spécial,
c'est par M. Cohen, par Jean-Michel Cohen. Bon, on explique, est-ce qu'on parle d'anorexie, on parle de boulimie, on parle d'obésité, etc. C'est les grands tabous, les grands bébelles qui nous fatiguent ou fatiguent pas, ou qui fatiguent d'autres personnes dans notre vie, d'autres proches de chez nous, des parents proches.
Reliés à l'alimentation.
Relié à l'alimentation. Après ça, j'ai passé à Le Roi Carême. Ça, c'est chez AVH, nos amis de France, AVH.
Alors, AVH, Carême, il faudrait rappeler ce que c'est AVH.
Association Valentin AU.
Voilà, parce
et
que c'est important
que
de le dire.
Que nos gens se retiennent ça, parce qu'à la fin, je vais vous dire un petit mot là-dessus, absolument.
Bon, on n'a plus que deux minutes, mon petit Gérard.
Pardon?
On n'a plus que deux minutes. On n'a plus qu'une minute cinquante.
Le Roi Carême, là, c'est pas
non, c'est pas vrai.
Il a vécu au début de la Révolution française, mais on ne le sait pas. Mais c'est lui qui était à l'origine de toute la cuisine française. C'était lui le fondateur de la cuisine française. Fait, si on veut s'amuser, et ça va à peine de lire ça.
Oh.
C'est un roman passionnant.
Et c'est un roman écrit
par... Le Roi Carême...
Oui, par Philippe Alexandre.
Par Philippe, c'est ça, Alexandre.
D'accord.
Ça, je le recommande fortement.
D'accord.
AVH. Vous avez aussi
À la bonne franquette.
Oui, à la bonne franquette. C'est un dictionnaire aussi de cuisine. Ça, c'est un petit peu... comment je dirais ça? C'est un dictionnaire gourmand. C'est français.
Oui, mais c'est mignon, avec toutes sortes d'expressions françaises.
Ouais,
par exemple,
ça.
Pourquoi est-ce qu'on dit les carottes sont cuites? Qu'est-ce
et
que ça veut dire sucré?
C'est Jean-Daniel Levé, L-E-S-A-Y.
Voilà.
Qui est l'auteur, et on retrouve ça à VH.
Oui, pourquoi on dit pédaler dans la semoule?
Pardon?
Pourquoi dit-on, par exemple, pédaler dans la semoule?
Ah!
Ben voilà, il faut lire le livre pour le savoir.
C'est ça.
Et puis...
vous avez après ça, vous avez le dictionnaire impertinent de la gastronomie.
Oui.
Et ce dictionnaire-là qui est écrit par M. Legasse, L-E-G-A-S-S-E, c'est des expressions, des recherches qui ont été faites, même ancestrales, sur la nourriture, sur l'alimentation,
bon.
Mais vues par des Français.
D'accord. Bon, rapidement, Gérard...
Choix, moi, j'ai fini par mon choix, c'était oui. La santé par le plaisir.
D'accord, de bien manger.
Et ça, c'est avec Alenka, et c'est par Richard Béliveau.
D'accord.
Et ça mérite d'être lu. Absolument.
D'accord.
Vous avez
d'accord.
Un choix, vous faites 8 milliards.
D'accord.
Je termine pour dire à nos gens de s'abonner à l'association Valentin en U. Je vais vous dire pourquoi. D'ici les premières prochaines semaines qu'on va se parler,
mm-hmm.
On va avoir les prix littéraires. Et on les a tous, ces prix littéraires-là.
Ah ben oui.
Le Goncourt, le prix littéraire, le prix littéraire, le Nobel de la littérature, le prix féminin, etc. On peut tous les avoir immédiatement si on est abonné à AVH.
OK.
Et on aura l'occasion, à la fin de parce qu'ils donnent les prix tout dans le même temps, là, ça dure un mois, à la fin de ça, on fera une émission spéciale sur les prix. Tous les différents prix.
Oui, je vais d'accord. Oui, mais vous savez, par contre, il faut penser, Gérard, qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet. Alors, vous aurez beau faire et beau dire quand même, pour les gens qui utilisent encore Victor et les disques CD, malheureusement, il va falloir encore qu'ils passent par SQLA. Et ça, pour les prix littéraires, on s'entend que ça va prendre quelques mois avant qu'ils soient disponibles.
Mais il y a encore des gens qui l'ont.
Ah ben oui, absolument. Et alors, s'ils font avh.fr, ils peuvent s'inscrire facilement?
Oui, oui. Ils ont simplement... leur attestation
d'accord,
visuelle,
parfait.
Ils ont à la mettre sur un papier, sur une feuille,
d'accord.
Et la mettre en attaché. Ils ont
d'accord.
Pensé d'envoyer par la poste, ils en mettent en attaché, puis en dans deux semaines, ils vont recevoir le code, etc.
Bon, ben
c'est
écoutez.
Facile.
Alors, avh.fr. Gérard, c'est toujours un plaisir, et en plus, vous nous apprenez toujours plein de choses, alors c'est très agréable de vous parler à toutes les deux semaines. Dans deux semaines, ce sera quoi le sujet?
Je ne sais plus.
Bon, et bien alors, bonne sieste.
Allez,
bonne sieste. Je vous disais.
Non, mais je ne m'arrête pas.
Non, mais ce n'est pas grave.
Je travaille sur d'autres affaires qui s'en viennent.
D'accord. Vous êtes adorable.
Je salue vos auditeurs et je leur souhaite une bonne lecture et profitez-en. Il y a des choses fantastiques.
Merci beaucoup, Gérard. Je vous embrasse.
Et vive Canal M. Bye-bye.
Bisous. Alors, c'est la bande-annonce maintenant, la bande-annonce de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reçois, entre autres, je vous le disais tantôt, une ou deux, voire trois personnes du SQLA, donc le service québécois du livre adapté. Mais je vais aussi recevoir Gérard Cyr, qui va venir nous parler de deux livres qu'il a lus. Gérard est lecteur bénévole. Il va venir nous parler de Walmart, le journal d'un associé d'Hugo Meunier. Ça, c'est un journaliste de la presse qui s'est fait passer pour un type, pour un vendeur de chez Walmart et à qui on a commandé un essai. Je vous fais entendre tout de suite un extrait de la bande-annonce réalisée avec la voix de Gérard Cyr qui lit ce livre.
Chez Walmart, il n'est pas rare que la cohue du Boxing Day ou du Black Friday vire pratiquement à l'émeute, comme en témoignent de nombreuses vidéos accessibles sur YouTube. En attendant le coup d'envoi de ce chaos socialement acceptable, François, le grand patron du magasin, fait les 100 pas nerveux. La pression semble lui écraser les épaules. Les préparatifs doivent être parfaits. Deux minutes avant l'ouverture, nous avons les yeux rivés sur les portes contre lesquelles s'aplatissent les corps fébriles de la clientèle. Je pense au Garfield d'Aventouse qui décorait jadis la lunette arrière des voitures, mais je pense aussi à The Walking Dead. Les portes s'ouvrent enfin. Les clients entrent en trombe, certains engagent même un sprint. Une gérante répète d'une voix forte mais monocorde un mantra qu'elle accompagne d'un mouvement mécanique du bras. Électronique par là, électronique par là. La foule se montre docile malgré le désordre et la précipitation. Elle suit la direction indiquée et s'engage dans une allée délimitée par des cordons de sécurité. Le rayon de l'électronique se remplit aussi rapidement qu'une pataugeoire montréalaise les jours de canicule. Des agents de sécurité veillent au grain et filtrent l'accès. Le magasin grouille d'acheteurs. À peine 15 minutes se sont écoulées depuis l'ouverture que l'interphone annonce un premier enfant perdu.
Et puis, Gérard Cyr aussi, la semaine prochaine, va venir nous présenter un livre extrêmement difficile. Ça s'appelle « Les anormaux » de Goetz Ali. Je l'ai là sous les yeux. C'est que, voyez-vous, dans les années 1939-40, à la chancellerie de Hitler, on a pris la décision d'assassiner, selon des critères spécifiques, des enfants handicapés physiques et mentaux. Et on l'a fait. Alors, c'est un livre qui relate ce triste épisode de la Seconde Guerre mondiale. Je manque d'un petit peu de temps pour qu'on en écoute un extrait, mais ne manquez pas ça. C'est la semaine prochaine avec Gérard Cyr. Gérard Cyr, bénévole lecteur, qui va venir nous parler de ces deux livres-là. Nous avons une triste nouvelle et des livres qui l'accompagnent. Cette émission est préenregistrée et au moment où nous l'avons enregistrée, nous venions d'apprendre la veille ou l'avant-veille que l'auteur suédois de polar Henning Mankell est décédé. C'est vrai que c'est un peu une mort qui était annoncée. On savait qu'il combattait un cancer depuis quelques années. Henning Mankell, qui était marié à Eva Bergman, la fille du cinéaste Ingmar Bergman, dont il était très proche. Vous savez que Henning Mankell, c'est lui qui a créé ce personnage de Wallander il y a eu une douzaine à peu près de livres et d'enquêtes signées Wallander. Il y a même eu des films qui ont été tirés de toutes ces enquêtes-là. Mais ce n'était pas seulement un auteur de polar, monsieur Mankell, c'était vraiment un type complètement passionnant, un type qui, entre autres, avait un pied en Afrique aussi. Il vivait une partie de l'année dans la capitale Mozambique de Maputo, M. Mankell, où il dirigeait un théâtre qui s'appelait le Teatro Avenida pour, disait-il dans un entretien à l'AFP en 2011, observer le monde depuis un autre endroit que notre Europe ethnocentrique. Et depuis sa découverte du continent africain dans les années 70, il aimait à dire qu'il avait un pied dans la neige et un pied dans le sable. Et quand on lui demandait quel était à ses yeux le centre de l'Europe, il répondait « la petite île de Lampedusa, au sud de la Sicile, d'où débarquent chaque année des dizaines de milliers de migrants ». Il disait aussi « je suis un homme en colère face aux injustices et aux inégalités, contre les extrémistes, les intégrismes religieux ou les violences faites aux femmes et aux enfants ». Et Wallander partageait ses colères. L'écriture était vitale pour Henning, a réagi Dan Israel, cité par l'agence TT, qui a rencontré l'écrivain quelques jours avant sa mort. Il envisageait d'écrire un nouveau Wallander pour les 25 ans de la série l'an prochain, a-t-il assuré. Il pensait tenir plus longtemps face à la maladie. Le dernier livre de Mankell publié en France est « Sable mouvant, fragment de ma vie », où l'écrivain racontait ce dernier combat justement contre le cancer. C'est sorti en librairie le 17 septembre. Il a été tiré à 30 000 exemplaires. Je pense que c'est sorti également ici au Québec. Du moins, c'est un papier qui est paru dans la presse au lendemain du décès de M. Mankell. Donc, c'est même un livre certainement qui sera lu chez Vues et Voix. En attendant, si vous voulez, vous savez, il y a une main encombrante dont je parlais d'ailleurs à cette même émission la semaine dernière. À ce moment-là, on ne savait pas qu'il était décédé, M. Mankell. Le garçon qui dormait sous la neige, la faille souterraine et autres enquêtes. Le roman de Sofia, l'homme inquiet, le cerveau de Kennedy, les chaussures italiennes, Profondeur, les morts de la Saint-Jean et tellement d'autres. Le fils du vent aussi, ça c'est un livre que j'ai lu ici. L'homme qui souriait, la lionne blanche, les chiens de Riga. Tout cela, vous pouvez retrouver ça, entre autres, au SQLA. Et ce petit indicatif qui nous indique que nous arrivons à la fin de l'émission et qu'en toute fin de l'émission, je vous propose toujours des titres en rafale. En voici un d'Oprah Winfrey. Oui, la célèbre Oprah Winfrey. Ça s'intitule « Ce dont je suis certaine ». Vous savez que Oprah Winfrey, au fil des ans, a marqué l'histoire avec son émission légendaire, The Oprah Winfrey Show, l'émission la mieux cotée en son genre, imaginez. C'est quelqu'un qui y allait souvent de chronique. Parce que de son vécu, elle a tiré des leçons de vie, cette femme-là, qu'elle a transmise pendant 14 ans dans la chronique très prisée « What I Know For Sure » de sa revue O, The Oprah Magazine, qui est une source mensuelle d'inspiration et de révélation. Eh bien, pour la première fois, ces perles de sagesse sont maintenant révisées, actualisées, colligées et présentées sous ce titre « Ce dont je suis certaine ». Une citation, par exemple. Elle le disait dans cette chronique, Oprah Winfrey, « Pour moi, les livres constituaient un moyen de m'évader. Je considère maintenant la lecture d'un bon livre comme un luxe sacré, la chance de me trouver dans n'importe quel lieu de mon choix. C'est mon passe-temps par excellence. Ce dont je suis certaine, c'est que la lecture élargit notre vision des choses. Elle nous expose à tout ce que notre esprit peut contenir et nous y donne accès. Ce qui me plaît le plus dans la lecture, c'est qu'elle nous rend capable d'atteindre de nouveaux sommets, sans compter qu'elle nous permet de poursuivre notre ascension. » Un autre titre, « Chérie, chérie ». Chérie comme ça se prononce, trait d'union chérie comme ça se prononce, de Philippe Djian, D-J-I-A-N, celui à qui on doit entre autres 37.2 le matin. Petit résumé, il est question de Denis, 40 ans, le jour il mène la vie ralentie d'écrivains sans succès et de critiques fauchés, et le soir il s'habille en femme et va danser dans un cabaret. Quand ses beaux-parents viennent s'installer au-dessus de chez lui, plus question de se la couler douce, Paul, son beau-père, un mafieux notoire, pas franchement adepte du travestissement, lui trouve un emploi qui devrait l'endurcir. Les critiques de presse ont dit, entre autres, La Libre Belgique avec Philippe Djian, tout démarre comme un bon roman classique passionnant, mais toujours avec une intrigue singulière. Si on établit un jour la liste des plus mauvais romans de Philippe Djian, il faudra penser à y inscrire Chérie Chérie. Ça, c'était l'avis d'un autre magazine qui s'appelle Cro, C-H-R-O. Libération, en octobre 2014, a dit « Philippe Djian, dans ses romans, travaille au contraire cette forme de rapidité. Il supprime les enchaînements, installe des ellipses telles que le lecteur ne risque pas de s'endormir. » Voyez-vous, les avis divers sont différents d'un journal à l'autre. Dans l'Express, on écrivait « Tout à la fois, le récit d'une double existence, bouillonnement de désirs interdits et plongé dans l'univers de la petite mafia, le dernier roman de Philippe Djian forme un joyeux télescopage littéraire. » Je vous rappelle, ça s'appelle « Chérie, chérie ». Ça, c'est un livre absolument exceptionnel, une histoire peu ordinaire. L'auteur de ce livre a eu la chance incroyable d'élever 4 bébés chimpanzés qui ont aujourd'hui plus de 35 ans, du moins pour les 2 qui sont toujours vivants. Il s'appelle Daniel Paquette. Il est éthologue. Il raconte sa vie avec Spock, Sophie, Merlin et Maya, ces 4 chimpanzés. Ces 4 chimpanzés qui lui ont appris tellement de choses, de l'importance de la paternité, par exemple, sur la fonction paternelle, de l'ouverture au monde, des jeux de bataille. En tout cas, c'est un homme qui dit que toute sa vie, il a tout appris de ces 4 chimpanzés qu'il a élevés. « Ce que les chimpanzés m'ont appris » par Daniel Paquette. Un beau roman d'aventure, un bon thriller avec Elsbeth Egholm, ça s'écrit E-G-H-O-L-M, ça s'appelle « Degré ou de force ». Nous sommes au Danemark où 2 attentats frappent simultanément le centre-ville d'Aarhus, causant la mort d'une jeune handicapée et la mort également d'une candidate controversée à la mairie. Alors, à la fois thriller, politique, suspense, tout ça, c'est vraiment... si vous aimez les bons livres comme ça, genre sur les plages, là, ça, c'est un livre à lire sur une plage pour passer le temps. Je vous rappelle le titre, « Degré ou de force », et c'est signé Elsbeth Egholm, E-G-H-O-L-M. « Et puis, je voudrais vous dire aussi qu'il y a l'affaire Jacques Delisle de Catherine Lamontagne. Je vous avouerai que j'avais préparé un document sonore de ce livre-là. Et puis, j'ai complètement oublié de donner ça à mon petit camarade Mathieu. J'avais écrit un site Internet. Écoutez, si vous faites sur Internet, si vous l'avez, l'affaire Jacques Delisle de Catherine Lamontagne, vous allez entendre une espèce de bande sonore de ce livre-là qui nous le présente. Le dernier procès, l'affaire Jacques Delisle, c'est passionnant. Évidemment, Jacques Delisle qui enfin s'exprime, lui qui s'est tu pendant tout son procès, il ne parle pas de la mort de sa femme. Par contre, il évoque sa maîtresse, il évoque toutes sortes d'aspects dont on n'a jamais rien su avant, pendant et après le procès. Jacques Delisle, qui, vous le savez, est en prison. Et puis, n'oublions pas, je vous l'ai présenté lors d'une récente chronique sur ma table de chevet. Je vous ai parlé du livre de Mylène Paquette, « Dépasser l'horizon ». Un livre absolument extraordinaire. Je l'ai fini maintenant, je l'ai bouclé. J'ai fait ce voyage avec elle, mais pas à la rame. J'ai un peu moins transpiré qu'elle. J'avais un peu moins de cloques aux mains, je pense. Mais j'ai adoré ce bouquin. Alors, il est bel et bien sorti. Mylène Paquette, « Dépasser l'horizon ». Voilà, je vous laisse sur ces titres en rafale. Je vous laisse aussi en vous remerciant d'avoir écouté cette émission. Merci aussi d'en parler autour de vous. Cette émission est importante. Canal M aussi. Merci à Mathieu Tessier qui m'accompagne également semaine après semaine. Merci à Gérard Saint-Denis, Gérald Cousineau et Bia qui étaient mes trois invités aujourd'hui. À la semaine prochaine.